Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, je suis avec Bernard Garnier, donc tu es coordinateur artistique du collectif Troisième Bureau, donc bonjour à toi.
Bonjour.
Et donc, en deux mots, ce collectif artistique, il organise, comme chaque année, c'est le 25e cette année, festival Regards Croisés. Donc ça se passe du 22 au 27 mai à Pont-en-Royan, mais aussi au Théâtre 145 à Grenoble du 23 au 27 mai, et aussi un petit peu à Saint-Martin-d'Hères, mais tu nous diras tout ça plus en détail après. Et donc, l'objectif de ce collectif, c'est de défendre les nouvelles écritures théâtrales. Mais d'abord, pour commencer, on va un petit peu parler du festival. Et pour remonter à ses origines, comment il est né, ce festival Regards Croisés ?
Eh bien, il est né à la fin du siècle dernier, et donc dans les années, au début des années 2000, d'un groupe de professionnels du théâtre, principalement donc des comédiens, metteurs en scène et auteurs de théâtre. On s'est regroupés, constatant que les écritures d'aujourd'hui, les écritures contemporaines, donc de notre époque, écrites par des auteurs et des autrices vivantes, étaient peu présents sur les scènes du théâtre. Et on a eu cette curiosité d'aller lire du théâtre. Et puis, pour ne pas rester seul dans son coin, une fois qu'on a lu une pièce, qu'est-ce qu'on en fait, de partager ces lectures avec d'autres professionnels. Et c'est comme ça qu'est né Troisième Bureau et qu'est né le festival Regards Croisés.
Oui, donc finalement, une volonté de mettre en avant ces écritures contemporaines. Et donc, tu as un petit peu parlé de Troisième Bureau, qui est donc l'organisateur de ce festival. Est-ce que tu peux nous présenter aussi un peu ce que c'est ? Est-ce que, il me semble que ça a le même but de défendre justement ces écritures contemporaines ?
Alors, Troisième Bureau, c'est la structure porteuse du projet. Troisième Bureau, c'est d'abord un comité de lecture. Actuellement, nous sommes 21 comédiens, metteurs en scène, auteurs, autrices, enseignants aussi. On a justement avec nous des enseignantes de l'université, art du spectacle, et puis aussi des professionnels du livre. Enfin voilà. Et donc ce comité, ce travail de juin à février, à la lecture de très nombreux textes que nous recevons. Et au fur et à mesure des lectures, se fait petit à petit une sélection pour arriver en février à une sélection très restreinte, puisqu'il y a moins d'une dizaine de textes qui sont retenus et qui seront présentés après, principalement au Festival Regards Croisés, ou bien quand on a aussi d'autres opportunités, puisqu'on travaille avec, on fait des partenariats, ça peut être dans le cadre du Printemps du Livre ou d'autres manifestations de ce type.
Et donc justement, il y a beaucoup d'auteurs qui interviennent pour ce festival. Comment est-ce que vous les choisissez chaque année, ces auteurs et autrices qui sont là ?
Eh bien voilà, c'est le comité de lecture. Ouais. C'est-à-dire au fil des lectures, se dessine un intérêt pour tel ou tel texte, parce qu'on trouve qu'il y a une très grande qualité d'écriture, parce que le sujet nous paraît très intéressant, et puis c'est surtout la façon dont il est traité, hein, parce qu'il ne suffit pas de parler d'écologie, de crise climatique pour que ce soit un bon texte. Donc voilà, c'est toute la construction aussi dramatique et dramaturgique du texte qui nous intéresse. Et en fait, c'est le comité de lecture qui définit la ligne éditoriale du festival. Et après, systématiquement, ça c'est aussi un choix que nous avons fait très rapidement, sont invités les autrices et les auteurs, voire les traductrices et les traducteurs, puisqu'on a aussi une ouverture sur les écritures, sur le théâtre étranger. Donc, voilà.
Et donc, sur ces thèmes, quels sont un peu les grands thèmes ou préoccupations qui traversent les textes de cette année, finalement ?
Alors, sur les 6 textes présentés donc, lors des soirées du festival, comme vous le rappeliez tout à l'heure, la première soirée se déroulant à Pont-en-Royans, à la halle de Pont-en-Royans, et les 5 autres soirées au Théâtre 145 à Grenoble. Il s'avère que le thème qu'on n'avait pas choisi au préalable tourne autour du patriarcat et du féminisme, principalement.
Oui, et donc, oui, justement, vous aurez une table ronde à Saint-Martin-d'Air à ce sujet.
Oui, donc, chaque année, on organise une table ronde. C'est un moment de rencontre, en fait, entre professionnels et avec le public. Hein. C'est une table ronde qui est ouverte au public, qui va se dérouler à l'Est, donc pas très loin de chez vous. voilà, dans le théâtre à l'Est, qui nous accueille et qui donc va avoir lieu le lundi 26 mai de 10h à midi. Qui va réunir les autrices invitées du festival autour de la question qui était une phrase empruntée à Lorraine Bastide, comment le féminisme peut sauver le monde. Voilà, oui. Donc tout un programme.
Alors justement, on en parlera un petit peu plus en détail après de cette table ronde. Mais d'abord, il y avait une question que je me posais, parce que ça fait 25 ans qu'il existe, ce festival. Donc comment est-ce qu'il a évolué dans le temps? Est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis la première édition?
Oui, ne serait-ce que sur les thématiques qu'on a pu se donner. Au départ, on se donnait des thématiques au travers d'un pays. Donc on a fait le premier festival, c'était sur les dramaturgies autrichiennes, le deuxième, dramaturgie française, le troisième sur l'Algérie, le quatrième sur l'Irlande, le cinquième sur l'ex-Yougoslavie, etc. Et puis au bout d'un moment, bon, c'était passionnant parce que ça nous permettait une immersion très large dans la culture et l'histoire politique de ces différents pays. Et dans bien sûr les écritures théâtrales de ces pays. Et puis après, on a eu envie de changer, donc on est parti sur des thématiques autour de l'exil, le mur, la désertion, voilà. Et puis au bout d'un moment aussi, on a eu envie de sortir du carcan d'une thématique pour se donner la liberté de choisir les textes qui nous semblaient intéressants et qu'on avait envie de partager avec le public. Et la thématique se définit a posteriori, finalement. C'est une fois qu'on a fait la sélection, on découvre quelle thématique est la plus importante, enfin, puisque tous les textes ne sont pas, cette année, ne parlent pas forcément tous du paternalisme, du patriarcat, pardon, ou du féminisme, mais il y en a une majorité. Et puis d'autres évolutions, ça a été la présence de plus en plus importante de la jeune génération, notamment avec la participation des lycéens. On travaille avec 6 classes de 6 lycées de l'Académie de Grenoble qui vont donc être présents au festival à plusieurs reprises. Et puis on travaille aussi avec les élèves du conservatoire. Et on est aussi en lien avec l'UGA, puisqu'on fait un comité de lecture sur place ici avec les étudiants de L3 du spectacle.
Oui, justement, j'allais en venir à cette véritable volonté d'intégrer un public jeune dans votre festival. Donc, je pense notamment au projet Les Adolis, qui est oui. En lien avec ce prix Naomi Wallace. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce que c'est, ce projet?
Alors, dès la première année d'existence de Troisième Bureau, on a souhaité travailler avec des lycéens et on a mis en place des comités de lecture lycéens. Voilà, c'était quelque chose qu'on avait remarqué qui se faisait au Théâtre de la Colline à Paris. Et ça nous paraissait particulièrement intéressant, donc on est parti un petit peu sur les mêmes bases. Et puis petit à petit, le projet a évolué. Donc c'est toujours le même principe au départ, c'est-à-dire qu'on propose aux élèves de chacune des classes 3 textes, les 3 mêmes textes, qui ont été sélectionnés par le comité de lecture de Troisième Bureau, qui ne sont pas des textes jeunes publics, qui sont des textes tout public, mais on fait aussi attention parce que c'est pas facile de lire du théâtre en lecture silencieuse, on le sait, et donc de pas, il y a quelquefois des formes des écritures théâtrales contemporaines qui sont un peu complexes à aborder, qui se dévoilent une fois qu'on les met en lecture ou qu'on les met en scène. Donc voilà, il y a 3 textes qui sont choisis. Les élèves travaillent sur ces textes de janvier à mai, Ils lisent les textes, ils en discutent, on fait aussi de la lecture à voix haute, parce que ça permet aussi de découvrir le sens du texte. Des fois, on fait en lecture silencieuse, on a compris globalement de quoi ça parlait, mais pour rentrer vraiment dans le sens, dans la subtilité de l'écriture, lire à voix haute, ça ne pardonne pas. Parce que si on ne comprend pas ce qu'on lit, ça s'entend tout de suite et on s'en aperçoit. Et donc, les élèves de ces 6 classes, le 27 mai après-midi, vont rencontrer les 3 auteurs autrices des 3 textes sur lesquels ils ont travaillé. Voilà, il y a donc Grégoire Vauquois, Catherine Monin et Dino Pesu, qui est un auteur croate. Et donc, ils vont faire des lectures d'extraits et ils auront préparé des questions qu'ils vont poser pendant une heure aux autrices et aux auteurs. Et à la fin, ça c'est une nouveauté cette année, on dévoilera quel est le texte lauréat, c'est-à-dire que les élèves, après tout le travail de lecture et d'approche et de discussion et d'analyse des textes, ont voté à bulletin secret dans chacune des classes pour leur texte préféré. Donc ça sera la surprise pour les auteurs et pour les élèves. Et ça sera donc ça le prix Naomi Wallace. Naomi Wallace est une autrice américaine que nous avions invitée en 2007 et qui c'était une très belle rencontre, vraiment très forte. Et donc on l'a invitée à plusieurs reprises. Vu ce lien, on avait envie de donner un nom à ce prix. Et que ça soit un nom d'autrice et non pas d'auteur, parce que souvent ce sont des auteurs, Bernard Michael Tess, Adèle Haquin ou Prix Godot, enfin voilà. Et là, donc, on a demandé à Naomi si elle serait d'accord pour être la marraine de ce prix, et elle a dit oui. Donc voilà, c'est le prix Naomi Wallace des lycéens, et Naomi sera présente le 27 mai pour dévoiler...
Pour remettre ce prix.
Et pour remettre le prix qui est doté d'une résidence d'écriture, de 15 jours à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignons, qui est donc partenaire du festival.
Ok, voilà. Très beau prix alors. Et justement, donc avant tu parlais que parfois il y avait des structures qui étaient assez compliquées dans le théâtre pour des lycéens comme ça, pour un jeune public. Donc comment dans ce cadre-là rendre le théâtre accessible justement?
Et c'est le travail qui est fait en classe. En fait, c'est un travail qui se fait vraiment en collaboration avec l'enseignant, puisque c'est un travail qui se fait, les comités de lecture lycéens se font sur les heures de cours. Et donc, il y a un travail de complémentarité entre les interventions donc, de comédiens de troisième bureau. On intervient en binôme pour avoir des demi-classes, hein, puisque souvent les classes de seconde, c'est entre 30 et 35 élèves. Donc là, on est sur des demi-classes entre 15 et 18 élèves, à peu près, 17. Et pendant 2 heures, il y a à la fois un travail d'échange et de discussion, c'est-à-dire amener les élèves à émettre un point de vue avec un argumentaire, pas seulement j'aime ou j'aime pas, ou j'ai rien compris, mais plutôt développer, même si t'as pas compris, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Et aussi, comme je disais tout à l'heure, s'appuyer beaucoup aussi sur la lecture à voix haute d'extraits du texte. D'abord parce que c'est quelque chose qui peut être très ludique pour les élèves et qui les fait aborder autrement l'écriture et qui, tout en étant dans le cadre scolaire, on est
dans
un petit
pratique.
Peu hors d'une pratique oui. habituelle. Mmh. Voilà.
Et donc, justement, et peut-être que les textes leur parlent plus parce que c'est aussi des thèmes actuels avec des autrices et auteurs qui sont encore vivants. Donc, il y a peut-être aussi cette dimension qui leur parle plus.
Complètement. Je pense que ils découvrent en fait une langue théâtrale qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire que quand on fait notre scolarité, on travaille sur le patrimoine, hein, donc Molière, Shakespeare, Racine, etc. Donc les grands noms du théâtre, et c'est formidable. Moi-même, je suis comédien, et il m'est arrivé de jouer aussi des textes classiques. Mais pour parler du monde d'aujourd'hui, des auteurs qui sont d'aujourd'hui ont une langue qui est proche de la nôtre, même si c'est une langue littéraire. C'est-à-dire que C'est pas parce que c'est du théâtre et que ce sont des dialogues que y a plein d'élisions, que c'est à la fin comme je te pousse, ou des choses comme ça. Non, c'est très construit. Mais c'est justement cette construction de la langue qui permet aussi de former la pensée. Voilà. Et le sens.
Oui. Et donc avant, tu mentionnais aussi beaucoup cette lecture, finalement, cette mise en voix du texte qui est au centre de votre festival. Et je voulais demander pourquoi le choix de le faire sous la forme de la lecture et pas de pièces de théâtre, par exemple.
Alors, c'est une bonne question. En fait, la démarche première, ça a été de faire des lectures. Bon, très réalistement, il y a des questions budgétaires. Hein. Voilà. Monter un spectacle aujourd'hui, ça coûte très cher. Ça coûte très cher à monter. Et après, c'est pas parce qu'un spectacle est monté qu'il va tourner. La situation est assez compliquée, hein, et elle s'arrange pas là, en ce moment. Et donc, une première étape pour faire découvrir ces textes au public, c'est la lecture publique. Et la lecture publique, la magie de la lecture, c'est que à la fois le texte est interprété comme s'il était joué, mais c'est l'auditeur, spectateur, qui va se faire dans sa tête, en quelque sorte, la mise en scène. Voilà, même imaginer peut-être les costumes, les déplacements, la situation, uniquement à l'écoute du texte. Voilà. Et ça a une très, très grande force, en fait. Je pense que c'est une expérience qui peut être exigeante parfois, mais qui est assez passionnante pour l'auditoire. Voilà, de partager comme ça, c'est comme si on était autour de cette table et l'un de nous se met à lire quelque chose et on écoute. Voilà.
Oui, et d'ailleurs, des morceaux de texte seront lus par les lycéens pendant le festival.
Alors, oui, il y a deux choses que je disais tout à l'heure, donc dans le cadre de la rencontre du 27 mai après-midi, qui va se dérouler, elle, au Grand Théâtre, donc le théâtre qui est rue Hector Berlioz, près de la place Saint-André. Donc, en ouverture de ces rencontres, les élèves de trois classes vont lire des extraits de chacun des trois textes. Et par contre, les trois autres classes, elles, vont faire ce qu'on appelle les levées de rideaux. C'est-à-dire qu'en ouverture des soirées du festival, le vendredi, le lundi et le mardi, parce que le week-end c'est plus compliqué pour mobiliser les élèves, ils vont faire une lecture de courts textes, des textes qui durent environ 10 minutes, qui ont une forme chorale, et qu'on a en fait commandé pendant 8 années auprès d'autrices et d'auteurs pour constituer un recueil de textes courts. Textes qui sont édités en quatre petits livres qui s'appellent Troisième Regard chez Théâtral et qui sont comme un petit peu comme des nouvelles théâtrales. C'est-à-dire qu'il y a une histoire. C'est un exercice difficile, je pense, pour les auteurs d'arriver en une dizaine de minutes de développer une histoire où il y a des personnages qui se dessinent, où il y a une situation, où il y a un aboutissement, etc. Voilà. Et ce sont les élèves. Alors, il y a cette année, donc parmi les élèves, il y a des élèves du lycée Pierre Termier qui liront le vendredi, du lycée Marie Curie des Chirolles le lundi et du lycée Ferdinand Buisson le mardi. Voilà.
Oui, donc on voit bien que finalement ces élèves, ils sont un petit peu au centre de votre programme aussi. Enfin, vous leur donnez une grande place. Donc, pourquoi ce choix? Quel rôle un petit peu la jeunesse, elle peut jouer justement dans le théâtre?
Pardon, excusez-moi. Je crois qu'on en a besoin. C'est avoir la présence de jeunes gens. D'abord, il y a d'autres regards sur les textes, et puis la vitalité aussi, hein, voilà, de ces jeunes qui. Au début, ils ne savent pas trop où est-ce qu'on les embarque avec ces comités de lecture, lire du théâtre, et qui, petit à petit, se prennent au jeu. Voilà. De la même façon, on a beaucoup de plaisir, et c'est quelque chose qu'on fait depuis de très nombreuses années maintenant, à travailler avec les élèves du conservatoire, voilà, qui depuis maintenant plusieurs années, prennent en charge une des lectures. Voilà, il y a un texte, Alors, ça dépend bien évidemment de l'âge des personnages. Quand il n'y a pas de pièce où l'ensemble des personnages est autour de la vingtaine, on va dire, à ce moment-là, ils sont distribués à l'intérieur des autres lectures. Mais là, cette année, oui, il y a une pièce qui s'appelle Bagarre, qui est écrite par une jeune femme qui s'appelle Sarah Senforder, et qui met en scène des jeunes gens un samedi soir qui s'ennuient, qui vont en boîte de nuit, voilà, qui fument, qui boivent de la bière. Bon, voilà, c'est comment exister.
Oui, bah, Sarah Senforder, justement, on en parlera après parce que c'est une des autrices qui va participer à la table ronde dont on a parlé avant. Mais avant ça, je vous propose une petite pause musicale.
Acte 1, scène 1, unité de temps, unité de lieu. La pièce durera toute ta vie, l'histoire se déroule sous tes yeux. Le rideau vient de s'ouvrir, toi tu soulèves les paupières. Tes parents gèrent la mise en scène, ta pièce démarre et ils sont fiers. Ils te souhaitent pas une tragédie, ils préfèrent que l'histoire soit drôle. C'est le théâtre de ta vie, c'est toi qui tiens le premier rôle. Tu regardes autour de toi les projecteurs, les premiers rangs, les gens qui te donnent la réplique et puis les autres, les figurants. Tes parents ont écrit le début, mais tu vas vite réaliser que pour la suite c'est entendu, tu vas devoir improviser. Et puis trouver les bons dialogues, dans ce premier acte tu es bavard. Ce ne sera pas une pièce d'auteur mais du théâtre de boulevard. Alors ton histoire défile sous la rumeur des spectateurs. Ton personnage perd l'innocence, t'essaies de rester à la hauteur. Face aux premières piques de l'intrigue, face aux premiers mauvais accords, derrière les apparences bien lisses tu découvres l'enfer du décor. Au théâtre on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. Le scénar est en friche, modifie-le, tu t'en fiches. Pour jouer les plus belles scènes et à l'heure de saluer le public, que tu aies le privilège d'avoir deux ou trois bonnes critiques. Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. L'histoire peut être riche, faut pas que tu traînes, faut pas que tu triches. Pour t'offrir de l'ivresse, du vertige, de l'émotion. Et qu'à la fin les gens se lèvent pour ta dernière ovation. Alors de cours à jardin, maintenant tu fais les 100 pas. Tu côtoies les bons comédiens et puis à ceux que tu sens pas. On flirte avec le vaudeville, avec toutes ces portes qui claquent. Tu vois moins tes parents, ingratitude du deuxième acte. Tu l'as compris sur les planches, c'est la cour de création. Dans toutes les situations, tu dois faire preuve d'adaptation. Dans un monde où le prévisible perd souvent le contrôle, le bon comédien est celui qui sait jouer tous les rôles. Et c'est là qu'intervient celle qui donne du sens à ta pièce. Sous les feux de la rampe, ta prétendante met tes attentes en liesse. Tout prend de l'importance, c'est ce que ton monologue indique. Fini le théâtre de boulevard, tu tiens ta tragédie antique. Si tout va bien, l'amour donnera de nouveaux petits acteurs qui à leur tour joueront leur pièce devant la foule des spectateurs. Tu mettras en scène leur début, t'as compris les règles du pacte, avant de retrouver l'énergie de t'atteler à ton troisième acte. Du public, on voit tes doutes, on voit tes gouttes, on voit la sueur, tes déboires, tes trous de mémoire, tes espoirs et tes lueurs. Le second rôle apprécie, c'est respectable et vibrant, les spectateurs vibrent aussi, c'est du spectacle vivant. Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche, le scénar est en friche, modifie-le, tu t'en fiches. Pour jouer les plus belles scènes et à l'heure de saluer le public, que tu aies le privilège d'avoir deux ou trois bonnes critiques. Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. L'histoire peut être riche, faut pas que tu traînes, faut pas que tu triches. Pour t'offrir de l'ivresse, du vertige, de l'émotion. Et qu'à la fin, les gens se lèvent pour ta dernière ovation. À quelques exceptions près, toutes les pièces se ressemblent un peu. Ça tourne autour de sentiments, tu sens, tu mens, tu vis, tu veux. Avec le décor et les costumes qui sont amenés à changer, ça dépend des moyens de la prod, on n'a pas tous les mêmes budgets. Moi j'ai grandi au cœur d'un beau théâtre occidental, loin des troupes du tiers-monde et des acteurs qui ont la dalle. Et j'aime le théâtre de ces pays où la scène est à même le ciel, où les intrigues se resserrent souvent autour des valeurs essentielles. À quelques exceptions près, toutes les pièces se ressemblent un peu. Il y a les grandes scènes de comédie et les bouts de drame contagieux. Et puis il y a tous ces imprévus, ces fous rires, ces dérapages. Moi je n'aime ce théâtre que quand l'intrigue sort de la page. Sois patient, reste en coulisses quand résonnent les coups de tonnerre. Et quand la scène est compliquée, appuie-toi sur tes partenaires. Ils te seront indispensables pour atteindre tes objectifs. N'oublie jamais cet adjectif, théâtre est un art collectif. À toi d'observer dans l'ombre quand on t'attend dans la lumière. À toi de prendre le devant de la scène quand le scénario te prévoit derrière. Écorche un peu ce qui est écrit, la vie aura un autre parfum. Ta pièce aura une plus belle fin, écoute une dernière fois ce refrain. Au théâtre on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. Le scénar est en friche, modifie-le, tu t'en fiches. Pour jouer les plus belles scènes et à l'heure de saluer le public, que tu aies le privilège d'avoir deux ou trois bonnes critiques. Au théâtre on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. L'histoire peut être riche, faut pas que tu traînes, faut pas que tu triches. Pour t'offrir de l'ivresse, du vertige, de l'émotion. Et qu'à la fin les gens se lèvent. pour ta dernière ovation.
Et c'était au théâtre de Grand Corps Malade. Et aujourd'hui, on parle justement de théâtre, mais plutôt de théâtre contemporain, avec Bernard Garnier, donc, qui est coordinateur artistique du collectif Troisième Bureau, qui organise son 25e festival Regard Croisé. Et donc, justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous faire un petit panorama de toutes les pièces qui seront présentées?
Alors, oui, je vais essayer d'être assez rapide. La première pièce, donc le 22 mai à Pont-en-Royan, ça s'appelle « La peau des autres » d'une autrice qui s'appelle Lauriane Goyet. Ça parle à la fois des violences intrafamiliales. Voilà, c'est une jeune fille, son père est violent de sa mère, et tout le monde dans la maison en fait. Et pour sortir, s'échapper un petit peu de cela, la seule chose qu'elle peut faire, c'est aller promener le chien. Et lors d'une de ces promenades, elle rencontre une autre adolescente et il y a une amitié qui va se nouer entre elles, et une amitié salvatrice, on va dire. Voilà, ça c'est la première pièce. Donc elle est plutôt, malgré le sujet traité, plutôt assez lumineuse en fait, dans la relation de ces deux, puisque en fait les deux protagonistes, c'est les deux jeunes filles. Voilà, on devine le reste au travers des récits de l'une des deux. Le vendredi, c'est une pièce qui s'appelle « Chlordécone, trop beau pour y voir » d'une autrice française guadeloupéenne, Béatrice Bienville, et qui a construit une pièce vraiment intelligente. C'est peut-être pas le terme qualificatif adapté, mais d'une grande intelligence, parce que elle s'attaquait à cette question du chlordécone, donc ce scandale sanitaire, le chlordécone est un pesticide qui a été utilisé et qui a pollué tous les sols et les nappes phréatiques en Guadeloupe-Martinique.
Utilisé notamment dans les plantations dans les bananeraies.
Alors qu'il était théoriquement interdit, donc il y a des recours qui sont faits en ce moment contre l'État, mais qui se défend. Elle présente au travers de scènes intimes, c'est-à-dire d'une famille, d'une grand-mère qui a travaillé toute sa vie dans les bananeraies, et de sa petite-fille qui vit en France métropolitaine et qui va la voir pour des raisons familiales et aussi d'un frère, un oncle malade. Donc nous dévoile un petit peu les méfaits justement humains qu'ont provoqué l'utilisation de ces pesticides. Et en contrepoint, je dirais, on voit sous des scènes comiques, voire farcesques, les politiques, les industriels, etc., faire en sorte qu'on puisse toujours utiliser le chlordécone. Voilà. Donc c'est plutôt une comédie, satirique, donc, qui est très bien. Le samedi, c'est une autrice haïtienne, Andris Pierre, qui a écrit une pièce qui s'appelle « La petite fille que le soleil avait brûlée », donc qui se passe à Haïti. Haïti, c'est une situation plus que difficile sur le plan humain, politique, économique. C'est un désastre. Et donc là, c'est une pièce qui va dénoncer au travers de la... Cette petite fille arrive parce qu'elle aimerait bien avoir utilisé la pièce de sa grand-tante ou de sa grand-mère, je ne sais plus, la robe de mariée pour son mariage. Et en fait, sa demande va provoquer tout un récit de l'histoire de la grand-mère et des violences du patriarcat. Voilà, ça c'est le samedi. Le dimanche, il y a le matin, et ça il ne faut pas l'oublier, à 10h30, ce qu'on appelle l'apéro sirop, qui est un temps du festival qui est dédié au jeune public. Voilà, parce que c'est vrai que les autres pièces, on peut dire c'est à partir de 12 ans, à partir de 13, 15 ans, mais ce n'est pas les enfants. Donc là, c'est une pièce de nouveau de Béatrice Bienville qui s'appelle « La neige est blanche », qui dure environ 40 minutes, qu'on peut venir voir en famille, parce que les enfants tout seuls ne viendraient pas au théâtre, et qui s'adresse à des enfants à partir de 10 ans. Et puis l'après-midi, en fin d'après-midi, il y a une pièce de l'auteur norvégien Arne Ligre qui s'appelle la trilogie du... Oh là là, J'ai un trou. La trilogie de la mémoire, pardon.
Ça tombe bien, la mémoire.
Voilà, c'est ça.
Trou de mémoire.
Et qui parle de la perte, en fait, d'être cher. Voilà, une pièce un peu sombre, on va dire, mais qui est très empreinte, en fait, de ce qu'on peut trouver dans les écritures nordiques, voilà, et notamment d'auteurs et d'autrices norvégiennes. Le lundi, c'est Bagarre, donc dont on parlait tout à l'heure, de cette pièce qui met en scène des jeunes gens, de la pièce de Sarah Senforder. Et puis enfin, le mardi, c'est une pièce qui s'appelle Love, exercice argumentatif d'une autrice israélienne, mais qui vit maintenant depuis 12 ans en Allemagne, Sivan Banishet, qui met en scène Olive, le personnage d'Olive, et donc de Popeye. Mais il n'y a pas une Olive, il y a plusieurs voix qui racontent l'histoire d'Olive et de ses amours avec Popeye, qui au départ sont idylliques, et au bout d'un moment, y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Voilà, c'est une grande comédie.
Magnifique, et un beau programme alors. Et donc, on en parlait avant, il y a aussi la table ronde, le 26 mai.
Oui, alors.
À l'Est. Donc justement, qui s'appelle, dont le thème est « Comment le féminisme peut sauver le monde ». Alors, tu l'as un peu dit avant, mais je voulais demander justement pourquoi avoir choisi de l'intituler comme ça, cette table ronde.
Alors, c'est comme on est un groupe participatif au sein de Troisième Bureau. Donc c'est Pauline Bouchet, qui est par ailleurs maîtresse de conférences en art du spectacle, et qui va co-animer cette table ronde, qui a fait cette proposition « Comment le féminisme peut sauver le monde ?» Donc, qui est le titre en fait, d'un livre de Lorraine Bastide sur le futur. Et ça collait très très bien, cet emprunt colle très bien aussi au renouveau des écritures théâtrales, notamment en France, pas que, mais notamment en France, où les femmes sont de plus en plus présentes et portent un regard, alors je dis pas, c'est pas un regard féministe sur le monde, il n'y a pas une écriture féministe ou de femme, mais il y a d'autres choses qui se dégagent de leurs écrits et qui viennent remettre en perspective autrement le futur. Voilà.
Oui. Mais justement, sur ce renouveau des écritures théâtrales, en fait, cette table ronde, elle mêle aussi un peu des approches intersectionnelles et décoloniales. Donc, pourquoi aujourd'hui, il est crucial de croiser un peu ces pensées dans la création théâtrale ?
Parce que je pense qu'elles habitent la société et que le théâtre s'intéresse à ce qui se passe dans le monde, comment les individus sont pris dans la grande histoire, dans ce qui arrive, et que c'est pour prendre le temps justement de réfléchir, parce que le théâtre est peut-être un des rares endroits aujourd'hui où on peut prendre le temps de réfléchir collectivement, soit en voyant une représentation, soit en assistant à une lecture, sur des questionnements sociétaux. Et celui-là, c'est un des questionnements fondamentaux. Quoi, voilà.
Mais finalement, il a aussi un rôle de prendre... Enfin, le théâtre, il a aussi un rôle de pouvoir prendre un petit peu du recul sur le monde dans lequel on vit et de mettre...
Oui, c'est-à-dire qu'on a l'information en flot continu, du matin au soir, sur nos téléphones portables et ailleurs. Et ce qui fait qu'on a une vision du monde qui est complètement éclatée. On voit aussi bien un accident qui est arrivé à Châteauroux que la guerre qui continue sur le bombardement sur Gaza. Et le théâtre, c'est pas que ça s'élève au-dessus de tout ça, mais ça va prendre le temps, c'est surtout tout ça, prendre le temps de monter une fiction qui va nous amener à réfléchir. Voilà.
Et donc, cette table ronde, elle se fait justement avec la présence de plusieurs autrices, Donc, il y a Béatrice Bienville,
oui.
Andris Pierre, Sarah Asenforder, Julie Tirard.
Oui.
Donc, est-ce qu'il y aura un petit peu des moments aussi de lecture de tous leurs textes ou comment elle va se construire un petit peu?
Alors, ça, je ne peux pas vous répondre. ça appartient à Magali et Pauline. A priori, on ne va pas être trop dans la lecture, plus dans l'échange, parce que comme elles sont déjà assez nombreuses, une table ronde, les temps de parole, le temps file très très vite. Et comme les lectures, c'est un autre temps, c'est le temps des soirées. Donc là, on va être plus dans l'échange, la discussion, avec une ouverture avec le public aussi, sur des questions du public. Et cette table ronde alors s'inscrit dans un partenariat qu'on a avec la direction académique aux arts et à la culture, puisque l'après-midi, il y aura un temps de formation donc réservé à des enseignantes et enseignants de l'Académie de Grenoble, et un peu plus d'une vingtaine d'enseignants, autour de la lecture à voix haute du théâtre.
Oui.
Voilà.
Et donc, justement, sur le théâtre et la culture, tu en as un petit peu parlé avant, mais la culture, elle traverse un peu une crise en ce moment, entre les réductions des budgets, la précarisation des artistes. Et tout ce qui s'ensuit, donc je voulais demander quels sont les dangers concrets auxquels ce secteur est confronté aujourd'hui.
Alors, il y a deux choses. D'abord, mentionner que le vendredi 23 mai, il y a une journée de mobilisation à Grenoble, mais aussi dans d'autres villes de France, par rapport aux politiques qui sont menées en ce moment. Donc il y a les coupes budgétaires de l'État, notamment, qui ont des répercussions désastreuses aussi au niveau des collectivités locales et territoriales. Il y a ça. Et puis, je pense que ça, c'est sur la forme, ce qui entraîne quand même concrètement moins de création, moins de diffusion, donc moins de spectacles, moins de travail, et ce qu'on pourrait comparer à une forme de licenciement collectif qui est invisible parce que ce sont des intermittents, donc c'est pas comme quand une troupe complète disparaît, là c'est des personnes comme ça qui sont confrontées à ne plus avoir de travail. Il y a quand même aussi ce que je trouve scandaleux, c'est ce qui s'est passé pour le Pass Culture, avec l'arrêt brutal du financement du Pass Culture, soi-disant parce que les caisses étaient vides, mais on peut se poser la question, c'est le budget était prévu dès le départ, donc pourquoi les caisses sont vides? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des manipulations financières? Et puis, sur le fond, il y a quelque chose d'assez pernicieux, peut-être, au niveau des politiques. C'est-à-dire qu'il y a comme s'il y avait un abandon de ce qu'est une politique culturelle, un service une mission de service public de la culture. On est très décontracté maintenant pour supprimer dans une région toutes les subventions, pour interdire ceci. Il y a quand même toute une pénétration des idées de droite, voire d'extrême droite, c'est surtout celles-là qui sont dangereuses, à plusieurs niveaux. Et ça a une incidence immédiate sur la culture.
D'où l'importance de maintenir le type d'événement comme votre festival, et donc de garder un petit peu l'acte d'écrire comme une forme de militantisme, on peut dire ça comme ça.
Aussi.
Et donc, finalement, quel message vous aimeriez adresser à celles et ceux qui écoutent l'émission et qui ne connaissaient pas Regards Croisés avant?
Alors, venez.
Évidemment.
Alors, si, juste une chose quand même importante, c'est que l'ensemble de la manifestation, que ce soit les lectures ou les rencontres ou la table ronde, l'entrée est gratuite. Voilà, c'était une volonté politique qu'on a mis en place dès la première année. On est plus dans le temps du partage. Après, les gens qui veulent soutenir le travail que nous menons, ils peuvent adhérer à l'association. Le principe de la gratuité nous paraissait important pour que chacun puisse aussi, même si ça ne fait pas tout, mais malgré tout, qu'on puisse faire le pas de rentrer dans un théâtre.
Voilà, donc finalement, venez nombreux à ce festival Regards Croisés, donc, qui sera du 22 au 27 mai à Pont-en-Royans et du 23 au 27 mai au théâtre 145 à Grenoble. Et donc, vous avez le site, sinon, sur votre site, il y a tout le programme détaillé.
Il y a tout le programme sur le site de 3e Bureau, 3emebureau.com.
Voilà. En PDF, voilà. Et puis, cette émission, elle touche à sa fin. Donc, je ne sais pas si vous vouliez encore ajouter quelque chose ou si tout a été dit.
Non, je veux remercier Radio Campus de nous avoir invités. Et puis, j'espère que ça aura un écho auprès de vos auditeurs et auditrices.
Eh bien, merci à vous, Bernard Garnier. Merci. Et aujourd'hui, on remercie Oscar qui était à la technique.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ? Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.